Bonsoir. Alors, ma voix est toujours aussi catastrophique. Donc, je vous propose de faire un test ce soir, de tester si je vais tenir ou pas. Voilà, tout simplement. J'ai forcé un peu le micro. Et je vous invite à chanter, toi qui disposes. Désolé, Marie-Joseph, je ne récompense pas tes efforts. Mais c'est le 215.
215.
Alors, je vais faire semblant de chanter, hein, parce que je ne peux pas chanter. À prier. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu disposes de tout. Et c'est cela dont nous voulons nous souvenir ce soir, Seigneur. Tu as tout entre tes mains. Bénis notre étude, bénis nos prières, bénis notre communion fraternelle. Amen.
Amen.
Ce soir, je vais vous parler du lac de Galilée, ou de la mer de Galilée, ou du lac de Génézareth. C'est le sujet des miracles de Jésus, mais pas des miracles de guérison, par exemple, mais des miracles sur les éléments. On parlera des miracles sur les guérisons à un autre moment. Le ministère galiléen de Jésus occupe la plus grande partie de l'évangile de Matthieu. Et de nombreux miracles ponctuent ce ministère, nous le savons, et ceux des guérisons sont les plus nombreux. Ces miracles nous montrent la divinité de Jésus, à qui, et je cite les disciples, « même les vents et la mer obéissent ». Alors, c'est quand même des miracles qui ressemblent aux guérisons. Par exemple, il a donné à manger à ceux qui avaient faim. C'est des miracles pour le bien. Il y a quand même des miracles qui sont un petit peu différents. Par exemple, quand Jésus a marché sur l'eau. Ça n'a pas rendu service aux apôtres du point de vue physique. Ça leur a appris quelque chose, mais du point de vue matériel ou physique, ils n'ont rien appris de particulier. Ils n'ont rien reçu de particulier. En Matthieu, il y a... Je vais vite parce que j'ai qu'une demi-heure ce soir, donc après on va prier. Dans Matthieu, il y a deux termes principaux qui sont utilisés pour décrire les miracles. C'est l'ancêtre du mot dynamique, dynamite ou dynamique. Dynamis en grec, c'est-à-dire un acte de puissance. La dynamite, c'est quand ça explose très fort. Il y a plein de dynamite dans les évangiles. Et puis il y a aussi des signes. Les signes, séméion pour les hellénistes, puisqu'il y en a maintenant dans l'Église. Séméion, c'est un signe qui va dire, manifester par des actes surnaturels que Dieu est le maître des éléments. Parce que Dieu est souverain. Alors, les miracles ne résolvent pas tout, y compris dans les évangiles. On peut faire des miracles sans être mandaté par Dieu. Souvenez-vous de ce terrible texte de Matthieu 7. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Et qu'est-ce que Jésus leur dit après ? « Fichez-moi le camp. Vous ne valez rien devant moi parce que vous n'y étiez pas sincères. » Donc les miracles-là, qu'est-ce que c'était ? Difficile à savoir. Les miracles ne sont pas toujours opportuns non plus. Quand Jésus dit dans Matthieu 12 « Il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas ». Le miracle de Jonas, c'était quand il a disparu dans la mer, dans un ventre d'un cétacé, et puis qu'il est réapparu. Et Jésus faisait allusion à sa mort et à sa résurrection. Eh bien, vous ne verrez rien d'autre, les amis. Je ne vous en ferai pas des miracles. Jésus n'était pas un thaumaturge comme ça, pour le plaisir, en veux-tu, en voilà. Non. Et il y a un endroit. Alors ça, c'est assez étonnant. Il y a un endroit où il est dit, Matthieu 13, Jésus a refusé de faire des miracles parce que les personnes qui étaient là n'avaient pas assez de foi. C'était l'occasion de faire un miracle. Jésus, quand même, tu aurais fait un miracle, ils en auraient eu de la foi. Eh bien non, ces gens, on ne donne pas des perles aux cochons, aux pourceaux. C'est un peu l'idée. Donc vous voyez, le miracle n'est pas à manger à toutes les sauces, si je puis dire. Et puis, il y a des gens qui ont été témoins de miracles et qui n'ont pas du tout réagi. Si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, à Capernaum, avaient été faits à Sodome et à Gomorre, le feu du ciel ne serait pas tombé sur ces villes. Les gens se seraient repentis. Et toi, tu ne te repens pas. Donc, les miracles, ce n'est pas la solution miracle. C'est plus compliqué que ça. Néanmoins, Dieu... comme je l'ai affiché. Et alors, il n'y a que deux vues, je vous préviens, je fais le minimum syndical pour ce soir. Hein, donc, c'est juste ensuite quelques sujets de prière, c'est tout. Néanmoins, ça fait du bien pour nous, pour moi, de me souvenir que le Dieu de notre Église, c'est le Dieu des miracles. Les miracles ne sont pas systématiques, nous l'avons vu. Ils ne sont pas là pour changer les lois naturelles, pour les changer en permanence. Je discutais avec un jeune que j'ai croisé en ville et qui a fréquenté le groupe de jeunes, je te dirai qui c'est après, et qui a eu une grave opération de la hanche. Et on discutait justement de ça. Finalement, nous les chrétiens, on pourrait dire « Mais Seigneur, tu dois nous guérir quand même, on est tes enfants ». Alors que finalement, le reste du monde, ben, ça nous intéresse moins si les autres sont malades. C'est nous qui sommes importants. Hein. Non, les miracles ne sont pas systématiques et ne sont pas là pour qu'en un claquement de doigts, on puisse échapper à quelque chose ou être guéri de quelque chose. C'est d'ailleurs intéressant que pour faire une étude biblique sur les miracles, j'ai la voix cassée. J'aurais pu demander à Dieu, mais Seigneur, allez, pour les études sur les miracles, faisons un petit pour moi quand même. Allez, eh ben non, voilà.
C'est un miracle que tu sois là.
Oui, peut-être, oui. Et, il faut se souvenir de cette idée que les miracles ne sont pas là pour changer les lois naturelles face aux catastrophes naturelles qui nous interrogent quand il y a un séisme, quand il y a... encore quand c'est d'origine humaine. On se dit, ben oui, l'homme est pêcheur. Mais quand c'est un tsunami, qu'est-ce que l'homme a fait ? Rien. Ce sont les lois naturelles qui s'exercent. Et les miracles ne vont pas toujours contrecarrer les lois naturelles. Et Dieu a la puissance de le faire et nous lui demandons de l'exercer, cette puissance. Mais il ne le fait pas toujours. Quand il le fait, c'est un signe qui nous dit, où Dieu nous dit, je suis là. Et je reste souverain. Si tu ne comprends pas tout, je reste quand même souverain. Voilà un signe qui te le rappelle. Quatre récits de miracles ce soir. Premièrement, Jésus calme la tempête. Matthieu 8. Il y a deux récits de tempête sur le lac. Ça devait être un lac où il y a beaucoup de vent. Hein, ça doit toujours d'ailleurs. Il y a deux récits de tempête, celui qu'on va lire. Et puis un où Jésus va marcher sur l'eau. Alors, c'était moins caractérisé, tempête, il y avait quand même beaucoup de vagues. Ouais. Matthieu 8, 23 à 27. Il monta dans le bateau et ses disciples le suivirent. Alors survint sur la mer une tempête si forte que le bateau était recouvert par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples vinrent le réveiller en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, rabroua le vent et la mer, et un grand calme se fit. Étonné, il se disait, « Quelle sorte d'homme est-il, celui-ci, que même les vents et la mer lui obéissent ?» Les circonstances, c'est pour se séparer de la foule en Galilée. Jésus était fatigué, il s'est endormi dans le bateau. Il est monté dans le bateau et ses disciples l'ont suivi. Mais parmi ses disciples, il y avait beaucoup de pêcheurs qui connaissaient très bien le lac de Galilée. Et je suis sûr qu'il y en a un des deux qui a dit « le temps ne devrait pas monter là ». Ben, ils ont suivi Jésus. C'est bien écrit, cette phrase me plaît beaucoup. Il monta dans le bateau et ses disciples le suivirent. Peut-être... Moi, si j'avais été Jésus à ce moment-là, je n'aurais pas laissé venir la tempête quand même. C'est pareil, on a l'impression que Jésus s'y prend mal. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Mais j'aurais... Vous savez, la mer Rouge, par exemple, Dieu a ouvert la mer comme ça, et puis les disciples, les Israélites, pardon, marchaient. C'était formidable. Mais là, ils pouvaient faire pareil. La mer de Galilée, ils leur poussent les vagues de côté, et hop, ils traversent tranquillement. Non, la tempête, ils étaient dedans, les vagues passaient au-dessus. Et en plus, Jésus dormait. La panique. L'enjeu de ce récit, c'est la confiance en Dieu. Si les disciples avaient dit, le ciel menace, on connaît le coin, allez, on ne monte pas dans ce bateau. Ils n'auraient pas vu la puissance de Dieu qui allait se manifester. Ils n'auraient pas entendu Jésus calmer, ordonner à la tempête de se calmer. Et la tempête n'aurait pas vu se calmer. Mais ils ont suivi Jésus. C'est pareil pour nous. Suivre Jésus, c'est prendre des risques, peut-être faire des choses que naturellement on ne ferait pas. C'est prendre un crédit pour nos bâtiments, construire ça. On prend des risques quand même, les amis. On suit Jésus. Et c'est en suivant Jésus qu'on verra sa puissance. N'ayons pas peur. Pourquoi Jésus s'est-il endormi ? Quand même, il exagère. Il savait, enfin, un bon maître reste auprès de ses disciples, il les rassure, il ne s'endort pas.
Il était fatigué, oui.
Il était fatigué, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand même, c'est Jésus, il aurait dû tenir.
C'est aussi un homme.
Mais c'est aussi un homme, vous avez raison. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a appris à ses disciples ? On a l'impression parfois que Jésus dort, que Dieu ne nous répond pas. Mais... Bien sûr que si. Il nous laisse peut-être un peu mijoter dans notre jus, mais à un moment donné, et qui est le sien et pas le nôtre, il dit et la tempête se calme. Pour les tempêtes de nos vies, c'est la même chose. Peut-être que nous avons l'impression que Jésus dort. Sauve-nous, Seigneur. Ça sera l'article du lien fraternel de novembre, d'ailleurs. Et c'est lui qui calmera la tempête. Alors, je vais vite parce que nous voulons avoir du temps pour prier. Deuxième récit, le pain et le poisson. Je vais manger du poisson ce soir, pour ceux qui ont mangé, oui. T'en as mangé beaucoup ? Non ? Eh bien là, tu vas en manger beaucoup, tu vas voir. Matthieu 14. Et du pain, vous en avez mangé ? Ouais, ben moi aussi, et on va en manger beaucoup aussi. Il y a deux récits de la multiplication des pains dans Matthieu. Il y a Matthieu 14, 15 à 21, et Matthieu 15, 32 à 39. Les circonstances des deux récits sont à peu près semblables, toutes deux probablement au nord du lac de Galilée. Matthieu 14 raconte que Jésus a cherché à s'isoler parce qu'il venait d'y avoir la mort de Jean-Baptiste. Et donc il cherchait à s'isoler, il a pris un bateau, il est parti. Mais la foule a dû le suivre sur la rive, en voyant, pas si grand non plus. Alors que, et puis au moment où il a abordé, eh ben, la foule l'a rejoint en ayant couru ou marché vite le long de la rive. Matthieu 15, au contraire, une foule le suit, mais là Jésus passe, s'occupe de cette foule, guérit les malades. Et au bout du troisième jour, alors c'est peut-être le surlendemain de leur arrivée, là, il s'est dit, mince, ils ont faim. Trois jours, hein, donc prochaine fois que vous trouvez une réunion un peu longue, pensez à ce récit. L'enjeu de ce récit. Alors oui, après, Jésus a a demandé à ses disciples, alors j'aime bien aussi, Jésus, il les a quand même un petit peu secoué ses disciples. Vous imaginez, vous êtes, allez, une vingtaine, mettons qu'il y avait les 12 plus quelques autres, une vingtaine d'hommes et de femmes aussi, avec quelques-unes. Vous avez 5 000 personnes autour de vous. Vous êtes là, comme ça, au milieu de nulle part, et le maître vous dit, bon, allez, donnez-leur à manger. Alors on dit, Seigneur, t'as un côté assez long, enfin, c'est assez peu réaliste ce que tu dis quand même. Il les a mis à l'épreuve. Qu'est-ce que vous avez? Quelques pains, quelques poissons. Et puis Jésus a rendu grâce, a multiplié tout ça. Et il y a des milliers de personnes qui ont mangé, nous dit le récit. L'enjeu, comprendre que Dieu agit. Jésus s'amuse de ses disciples, on pourrait dire. Et pour nous, peut-être que nous aussi, il nous dit, allez Jean-Marc, allez un tel. Il y a des milliers de personnes autour de toi qui ont faim de l'évangile. Vas-y, donne-leur à manger. Et nous le dirions, Seigneur, tu ne te rends pas compte, on n'a rien, on est tellement une petite communauté de rien du tout. Ils étaient combien les disciples? Ils étaient moins que ce qu'on est ce soir. Et ils ont nourri des milliers de personnes. Alors, qu'est-ce qu'on va pleurer? Donc Dieu agit. Les disciples ont apporté ce qu'ils avaient quand même. C'est pas qu'ils sont venus les mains dans les poches, il y en a un qui avait un truc, un machin. Et avec le truc et le machin, Jésus a fait quelque chose. Nous c'est pareil, on a nos dons, on a nos moyens, l'un c'est bricoler, l'autre c'est faire ceci, l'un peut mettre la main à la poche pour mettre au pot, etc. etc. C'est avec ça que Dieu va nourrir des milliers de personnes de l'évangile autour de nous. Et puis, une fois que Jésus a multiplié les pains, regardez-le, enfin, je ne l'ai pas lu pour aller vite, le récit dit, les disciples ont distribué. Vous imaginez la scène, encore une fois, j'ai l'esprit tortueux, mais après tout, pourquoi pas. Vous imaginez la scène, les disciples, une fois que Jésus a multiplié les pains, bon, ils en mangent déjà. Hein. Et après, ils s'asseyent sous un cerisier et puis ils discutent entre eux. Pas possible. Ils étaient émus, ils étaient touchés, ils étaient complètement démontés par ce miracle et ils ont distribué. Moi, j'aurais bien aimé, allez, t'en veux, il y en a encore, c'est dingue. Oh, j'aurais aimé être de service ce jour-là, quoi. Ben, nous, c'est pareil. Quand Dieu multiplie, il faut qu'on bosse. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on soit engagé dans l'Église pour distribuer ce que Dieu a multiplié. Je passe au récit suivant. Après, on pourra, ce que vous retenez de ce récit, je prétends pas épuiser chaque sujet, mais on pourra le traduire en prière. Je vous propose ça. Vrai. Je vous dis, j'ai juste une vue très simple qui reprend grosso modo les éléments que je vous dis maintenant. Alors, Jésus marche sur l'eau. Chapitre 14, verset 22, c'est juste après la première multiplication des pains. Donc là, on est au nord du lac de Galilée. Jésus dit à ses disciples, bon allez, prenez le bateau, rentrez à la maison, donc Capernaum probablement, moi je reste là. Verset 22, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il n'est pas allé, hein, Jésus, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Je crois que c'était l'objet de ce qui a été dit un des dimanches où j'étais pas là, il me semble, par Étienne. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. Alors, c'est pas tout à fait une tempête, hein, mais il y avait quand même des vagues et du vent. À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, n'ayez pas peur, c'est moi !» La première partie du récit. La deuxième partie, c'est Pierre. Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux !»« Viens !» dit-il. Pierre descendit du bateau. Moi, je l'imagine Pierre en train d'enjamber. Enjamber la barque, là, puis tâter, puis oula, il met le pied sur l'eau et ça marche, c'est le cas de le dire. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu !» Comprendre qui est Jésus, voilà l'enjeu que je vous propose pour ce troisième récit ou quatrième récit. Les disciples comprenaient-ils qui était Jésus? S'était-il peut-être montré trop indifférent à ces miracles de la multiplication des pains? Parce que là, ce que Jésus va leur prouver, ça sort vraiment de l'ordinaire. Et ça n'avait pas d'autre but que de leur montrer qui il était. Et la conclusion de ce récit, c'est bien, eh bien, lui, oui, il est le Fils de Dieu. Verset 33. Jésus va placer ses disciples dans des circonstances difficiles, mais où il pourra manifester sa divinité, sa divine puissance sur les éléments. Et les disciples vont avoir là une belle trouille, pardon pour l'expression. Ils vont voir un fantôme, ils concluront « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Et nous, quel regard portons-nous sur Jésus? Est-ce que nous nous sommes habitués à lire ces récits il multiplie les pains, il guérit, l'un, il ressuscite, l'autre, ah ouais, c'est super, on raconte ça à l'école du dimanche, c'est génial, notre Jésus, il est super chouette. Est-ce que nous en sommes à cet état d'esprit qui n'a presque plus rien de chrétien, finalement? Parce que l'esprit de Dieu, lorsqu'il nous conduit vraiment, il nous conduit à l'adoration du Fils de Dieu. Et c'est ce que ce récit nous conduit à faire. J'aurais pas aimé être dans cette barque au milieu, avoir peur comme les disciples, etc. Mais j'aurais aimé, parce que qui d'entre nous a envie de vivre ces trouilles bleues là? Mais j'aurais aimé voir ce moment où Jésus montait dans la barque et disait, et calmait la tempête, le vent, et où ses disciples sont peut-être agenouillés devant lui et ont dit « Tu es le Fils de Dieu ». Quel moment vibrant qui a dû marquer les disciples. Et si jamais, je le suppose, ils avaient été trop peu sensibles au miracle dont ils avaient été témoins, et bien là, ils l'étaient. Et puis Pierre. On critique Pierre. On dit « Pierre, il a manqué de foi. Hein. » Ouais, d'accord. Et les autres, ils étaient où? Ils étaient restés dans le bateau, eux. Alors c'est facile de dire « Pierre a manqué de foi, il a vu les vagues, etc. » N'empêche que lui, il est sorti de la barque. C'est le seul. Eh bien, bravo Pierre. Et nous devons ressembler à Pierre. Sortir de la barque de notre confort. Prendre le risque en regardant vers Jésus. On n'est pas tout à fait sûr. On va peut-être s'enfoncer, on va peut-être perdre notre assurance. Mais à ce moment-là, Jésus, on pourra appeler Jésus et Jésus va nous prendre, on va sentir sa main ferme, nous empêcher de couler. Et puis, oui, il va nous rabrouer en disant, comme il a dit à Pierre, « Ah, t'as pas beaucoup de foi, mon gars, hein ?» Mais quel bienfait. Pourquoi, le texte dit, « Pourquoi as-tu douté ?» Sous-entendant par là, « Mais Pierre, il n'y avait pas de raison de douter. » Pourquoi tu as douté? J'étais là. Et Jésus nous dit la même chose aujourd'hui. Lorsque nous nous lançons dans un projet comme le nôtre qui nous embarque pour quelques années de paiement, qui nous lance plein de défis pour savoir comment accueillir les gens, c'était l'objet de la réunion de prière d'hier. On est peut-être notre trésorier, il est en train d'être comme Pierre, en train de s'enfoncer dans la mer des comptes. Mais il vaut mieux faire comme Pierre que de rester dans la barque. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Ressemblons à Pierre. Quatrième récit. Et dernier, ou cinquième, si on compte deux, un pour un récit pour chaque multiplication des pains. Alors ça aussi, ça ferait plaisir au trésorier. Jésus trouve de l'argent par hasard, entre guillemets. Juste au bon moment. Et chapitre 17, j'aime beaucoup ce récit. Enfin, on les aime tous, les récits des miracles, c'est sympa. Et puis, quelquefois, on est un peu jaloux. Là, des fois, quand la fin de mois commence le 15, on aimerait bien avoir un Jésus qui nous dit va trouver de l'argent là où je vais te le dire. Alors, chapitre 17, versets 24 à 27. Lorsque Jésus et ses disciples arrivèrent à Capharnaüm, ceux qui percevaient les 10 drachmes vinrent demander, j'expliquerai, vient demander à Pierre, « Votre maître paie-t-il les 10 drachmes ?»« Oui, dit-il. » Quand il fut entré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui dit, « Simon, qu'en penses-tu ? » Et alors, j'interromps la lecture, « Ces 10 drachmes, ou 7, les 10 drachmes, c'est une monnaie, on devait payer ça comme un impôt pour l'entretien du temple. » Le texte qui suit, que je vais lire, nous le montre d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour connaître l'explication. Donc voilà, est-ce qu'ils vont payer l'impôt du temple ou pas ? Jésus, prenant les devants, lui dit, « Simon, qu'en penses-tu ? » Ah, de nouveau, Simon qui se retrouve sur la sellette avec un petit coup de coude. « Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou les capitations ?» J'ai la nouvelle Bible seconde. « De leurs fils ou des autres ?» Pierre répond, « Des autres !» Jésus lui dit, « Alors les fils sont exemptés. » Ça voulait dire quoi tout ça ? Ben, le temple, c'est la maison de Dieu. Jésus, c'est le fils de Dieu. Donc il fait partie de la famille du roi. Et il n'a pas à payer l'impôt du temple. Voilà ce qu'il était en train d'expliquer à Pierre. Mais pour, et verset 27, mais pour que nous ne causions pas leur chute, va, et donc, autrement dit, pour éviter le scandale, on va payer. Mais comment ? Ils n'ont pas un rond. Comment ils vont faire ? Mais pour que nous ne causions pas leur chute, va à la mer. Donc on est toujours près de la mer, hein, Capharnaüm, c'est une ville côtière. Jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras un statère. « Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Pierre était pêcheur de métier. Je pense que ça ne lui était pas arrivé de pêcher un poisson et de trouver de l'argent dans la bouche du poisson. Là encore, Jésus demande à Pierre de faire quelque chose limite, quoi. Et là encore, Jésus aurait pu dire, « Tiens, susciter un don, je ne sais quoi, mais là, c'est franchement compliqué, quoi. Pourquoi ?» Fais confiance à Dieu. Là aussi, Dieu, comme je l'ai une fois ou l'autre dit, il pourrait très bien se passer de nous pour diffuser, pour être porteur de l'évangile. Il le fait très bien sans nous. Mais il nous demande de le faire. Pierre, qui était pêcheur, savait pêcher un poisson. Et Jésus lui a demandé de faire ce qu'il savait faire. Et seulement, il y a eu un autre résultat. Dieu pourvoit. Comme quoi la puissance de Dieu vient se loger dans nos gestes les plus quotidiens. Elle peut en transformer le sens. Nos gestes sont quotidiens, mais notre Dieu est celui des miracles. Je connais un trésorier, peut-être qu'il va se mettre à aller à la pêche. Ça ne veut pas dire que l'Église, ensuite, au début, a vécu comme ça d'ailleurs. En se disant, tiens, on va pêcher, il y aura des, comment c'est le nom de la pièce, il y aura des stataires, oh, hop, on pourra. Non, pas du tout. Ils ont dû mettre leurs biens en commun, ils ont dû peut-être manquer, il y a eu des moments où il y avait de la famine, il a fallu. Mais à ce moment-là, Jésus a manifesté sa grandeur. Une conclusion très simple, il est 30, donc je dois m'arrêter. Trois verbes, lançons-nous, comme les disciples qui sont partis sur la mer, alors que le temps menaçait peut-être déjà, ou qui ont apporté leurs quelques pains devant des milliers de personnes à nourrir, lançons-nous. Comme Pierre qui est sorti de la barque, ou est allé à la pêche, osons. Osons nous engager dans de nouveaux défis, sachons obéir à la Bible, même si elle nous semble en dehors de la réalité. Comme Jésus était parfois, semblait, alors qu'il était 10 fois plus, 1000 fois plus dans la réalité que ses disciples. Deuxième verbe, faisons confiance, vous l'aviez compris. Souvenons-nous que les signes sont ceux de la grandeur de Dieu. Les miracles ne sont pas forcément là pour nous sortir encore et toujours de nos difficultés, mais ils ravivent notre confiance en Dieu. Et ils nous rappellent que Dieu est là. Et troisième conclusion, agissons. Lançons-nous, faisons confiance et agissons. Or, c'est la puissance de Dieu ne nous laisse pas oisifs, comme si elle nous excluait de son action. Au contraire, les disciples devaient s'intégrer dans l'action de Dieu. Ils devaient ramer, ils devaient distribuer, ils devaient aller à la pêche, j'y reviens. Et ensuite, toutes sortes de choses. Et ils ont reçu l'Évangile. Et quand Jésus est monté au ciel, ben, ils ont agi. Ils ont proclamé ce message qui leur avait été confié avec fidélité. Ben, nous, c'est pareil. Nous nous lançons pour prendre des risques, peut-être, pour, par exemple, construire ou reconstruire notre beau bâtiment pour qu'il soit un lieu où les gens viendront entendre. Et ensuite, il faudra agir. Et nous le faisons déjà, bien sûr. J'ai 2 minutes de retard, donc le texte sera disponible dans les groupes.